何
Bonjour à tous et bonjour à toutes, Jenny et moi. Nous revenons du festival de la bande dessinée à Angoulême. Mais nous n'avons pas encore eu le temps de faire le tri dans tout ce que nous avons rapporté. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait foule et que nous avons vu beaucoup de belles choses. Et cela nous a donné envie de vous parler des mangaka. Ou plus précisément de mangaka qui publient leur vie en manga. Jenny, toi tu es fan des récits autobiographiques de mangaka?
Ouais, moi j'apprécie beaucoup ce style de manga. C'est souvent des récits courts. Je trouve que ça fait comme une respiration dans une carrière d'un auteur, d'une autrice. Parfois, ils écrivent pour parler de leur métier de mangaka, des techniques, des méthodes de dessin aussi. Il y en a d'autres qui partagent un moment important de leur vie, comme une maladie ou une remise en question. Mais c'est parfois aussi des récits de jeunesse, de formation, pour raconter leur parcours. Voilà, le choix est assez vaste.
On s'est dit que cette émission sur les autobiographies de mangaka, elle pouvait devenir... tellement le choix est vaste, pouvait devenir un rendez-vous récurrent et que nous allions en profiter à chaque fois pour vraiment vous parler d'un auteur ou d'une autrice en particulier et de façon à approfondir son œuvre.
Oui, eh ben, j'ai envie de vous parler de deux récits qui m'ont beaucoup marqué. C'est deux auteurs qui sont pas mal ressemblants sur plein d'aspects, vous verrez plus tard. Voilà, donc c'est Inyo Asano.
Oui, on vous propose de commencer avec un mangaka que nous aimons beaucoup, Inyo Asano. Moi, je connaissais juste son anthologie que tu m'avais recommandée, qui est un de mes livres de chevet. Mais tu m'as fait lire pour cette émission Errance, un ouvrage très, peut-être le plus introspectif d'Asano. On y voit, ou plutôt le manga y est décrit comme une pratique et un art dévorant, voire comme une obsession quasi destructrice.
Ouais, c'est l'histoire d'un manga qui arrive au bout de sa grosse série longue et à succès. Il vit ça un peu comme un postpartum, disons. Il est complètement vidé, il ne sait pas par quoi il va continuer. Il se met un petit peu en pause, comme figé. Et le monde continue à avancer autour de lui, mais il n'arrive plus à aller de l'avant.
C'est carrément un mangaka déprimé, voire franchement dépressif. Il se bat contre ce qui lui semble être un monde pourri, mais surtout contre lui-même. Et il écrit d'ailleurs un moment dans le manga. « Aujourd'hui, j'ai bien du mal à me souvenir de la raison pour laquelle je fais ce métier de mangaka. »
Il se questionne sur l'enchaînement des événements qui l'ont mené là où il est. Il a fait des études supérieures comme tout le monde, il s'est marié comme tout le monde. Il a beaucoup, beaucoup travaillé, même en couple, sans vraiment se voir et s'en contenter. Mais là, voilà, je trouve que c'est assez honnête et très introspectif et lucide sur ses errements. Il est assez cash sur ses souffrances et ses difficultés inhérent à son métier. C'est surtout une histoire de tension entre l'aspect créatif et les contraintes de production et de rendement qui sont assez faramineuses. Ouais.
Carrément. On ne va pas vous en dire trop pour ne pas spoiler, comme tu aimes à dire, Jenny, pour ne pas vous dévoiler trop de choses. Bon, ce n'est pas non plus à mettre en toutes les mains. Il y a des scènes de sexe. Bon, c'est pas terrible, mais c'est... mais bon, il y a quand même pas mal de scènes. La plupart du temps avec des femmes plus jeunes, et la plupart ce sont des travailleuses du sexe qui font ça pour payer leurs études, en fait c'est des étudiantes. Et voilà, il y a des dessins assez explicites, mais un propos d'une grande finesse, et surtout ça fait ressortir en fait l'implacable solitude ou l'incommunicabilité des personnages, à commencer par Asano et par son entourage. C'est vraiment un grand, grand manga, je trouve. Et on vous signale toujours chez Kana, donc la maison d'édition, une anthologie d'Asano que tu recommandes, Jenny, et qui est vraiment un manga extraordinaire, je trouve. Et peut-être qu'on peut faire aussi un point plus approfondi sur la production d'Asano Inyo.
Donc du coup, c'est pour moi, hein, je pense que c'est un des grands noms du manga d'aujourd'hui. Mais il est aussi totalement atypique. Il est né dans les années 80, en 1980 exactement. Il a débuté le manga assez jeune. C'est à 17 ans qu'il a proposé pour la première fois un magazine de prépublication, comme on vous avait expliqué, sa première histoire. Et puis à 20 ans, il commence vraiment sa carrière professionnelle. Il est l'assistant d'un auteur, d'un mangaka qui s'appelle Takahashi Shin, pendant l'écriture de L'Arme Ultime, qui est une romance adolescente sur fond de guerre technologique. C'est vraiment un des classiques du manga qui vient juste de ressortir après des années d'indisponibilité. On a le tome 6 qui est en double là, qui sort cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon.
C'est un manga d'Asano, hein, pas de Takahashi.
Non, c'est un manga de Takahashi Shin, et il en était l'assistant à ce moment-là. Je suppose les dates correspondent, donc je pense qu'il a dû y travailler dessus. Ouais.
Ok, et il y a d'autres... Tu voudrais nous parler, faire un petit point peut-être sur des sorties récentes de séries qui étaient manquantes pendant
longtemps.
Voilà,
c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anthologies qui ressortent en ce moment. C'est une volonté des éditeurs et ça permet aux nouveaux lecteurs de découvrir ces œuvres qui ont été longtemps manquantes des étagères des librairies. Et c'est plutôt pas mal.
Donc tu disais, on retrouve des séries en rayon qui étaient longuement manquantes. Il y a Asano, dans le style seinen, des histoires complexes pour les 14 ans et plus, disons.
Là, je pense que oui. Oui, clairement, on retrouve ces séries en rayon qui étaient longtemps manquantes. Et Asano, lui, il officie plutôt dans un style seinen, un petit peu comme cette série, et qui, elle, était à la travée entre le shoujo et le seinen, l'arme ultime, je vous le conseille. Et lui, il fait plutôt des histoires un peu complexes pour les 14 ans et plus, disons. Dans la première partie de sa carrière, il dessinait des récits plutôt intimistes qui mettaient en scène des jeunes gens un peu désabusés, trouvant difficilement leur place dans une espèce de Japon un peu flottant qui correspond pas forcément à leurs attentes. C'est plutôt des récits courts, de 2 volumes maximum. Et il avait un style de dessin à l'époque qui est assez proche de celui qu'il a maintenant, mais avec des personnages dessinés beaucoup plus simplement, voilà, et toujours des décors très riches, très, très travaillés. On peut citer Solanine, que beaucoup connaissent, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et est-ce que tu pourrais parler de son œuvre la plus connue, alors, en tout cas en France et puis pas qu'en France d'ailleurs.
Ouais, c'est justement chronologiquement la suivante. Hein.
Après Errance, tu veux
après,
dire
non, après ce que je vous disais juste avant, les Solanines et tous les récits introspectifs assez courts là. Okay. C'est la première série longue qu'il a fait et elle s'appelle Bonne nuit Ponpon, Oyasumi Ponpon, Bonne nuit Ponpon. C'est en 13 tomes, c'est toujours chez Kana. Il est quasiment édité que par Kana. Il y a une autre histoire, mais je vous dirai plus tard. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est dans une famille dysfonctionnelle. Asano les dessine comme des piafs. Toute sa famille a Ponpon et seulement elle. Et ça met un petit peu la crudité et la violence du récit à distance. Et ça lui permet de mener à bien ce récit-là. Et ça nous permet aussi de digérer toute cette histoire qui est assez, assez lourde, quoi. C'est une œuvre assez avant-gardiste. Elle attire beaucoup de lecteurs, même des lecteurs de shonen qui n'iraient pas vers cette œuvre-là, voilà. C'est sa seconde série longue. On enchaîne, alors attention, hein. C'est un peu une série post-Fukushima. Le titre est À dormir dehors. Les gens l'ont raccourci en DDDD ou 4D pour Dead Demons Destruction. Ça nous montre le quotidien un peu bouleversé de 4 lycéennes par l'arrivée et l'immobilité d'une soucoupe volante géante au-dessus du ciel de Tokyo. Alors les gens se demandent si c'est une menace, si ça n'est pas une, s'il faut s'armer, s'il faut les accueillir. Enfin, c'est tout un questionnement. Et cette histoire, pour moi, est vraiment addictive et immersive et très, très contemporaine.
Ouais, c'est un récit, donc ce DDDDD. Dead Demons DDDDD Destruction. C'est un récit multiple et riche sur notre société actuelle, sur fond de SF ultra réaliste. Graphiquement, c'est vraiment très très beau. Tu peux nous en dire plus sur sa technique de dessin?
Alors oui, il travaille, et en tout cas, il a travaillé à la plume. Je ne sais pas s'il continue, mais je pense que oui. Et il travaille aussi à la tablette. Et pour ses décors, en fait, il part de photos qu'il retravaille. Par exemple, dans une vidéo qu'on peut voir sur Internet, il part d'une photo d'un cendrier dans son atelier et on le retrouve en ovni dans 4D. Beaucoup d'auteurs font ça, mais je trouve qu'Asano le fait vraiment mieux que les autres. Il est aussi passé à la 3D pour 4D. Enfin, blague, pour 4D pour Dead Demon. Il a fait créer des bouts entiers de Tokyo à ses assistants pour se servir de décors. Plus tard. Il dit qu'il capitalise ces décors-là pour ses autres séries futures.
Mais il le dit dans Errance, souvent il demande à ses assistants de travailler sur des décors dont on se servira plus tard.
Ouais, c'est pour ça. Ouais, je pense que c'est une autofiction bien avec ses propres histoires à lui. Et donc, sur ce titre-là, il atteint, je trouve, vraiment un sommet de style. Je vous mettrai des pages sur la page de l'émission. Elles sont vraiment magnifiques. Il fait des découpages incroyables, les décors, les couvertures, je les trouve vraiment super. Voilà.
Et c'est un récit que tu rapproches de Errance, hein, dont on parle aujourd'hui, pour son sujet et son dessin assez cru.
Non, non, c'est la fille de la plage.
C'est la fille de la plage.
Oui, c'est la fille de la plage que je parlais tout à l'heure, qui est vraiment un récit vraiment plus mature. Là, un petit peu, mais pas vraiment autant. Ouais. L'auteur de justement de la fille de la plage, là, en deux tomes, où on suit deux jeunes japonais qui sont lycéens tous les deux. En japonais, c'est la jeune fille de la plage, ce qui est plus correct dans la traduction. Ils se rapprochent d'abord pour le sexe, un peu, ils sont un peu perdus, puis ils sont menés par des sentiments contradictoires. Quand l'un aime l'autre, l'autre ne l'aime plus. Voilà. Ils sont vraiment incapables de s'aimer l'un l'autre, en même temps en tout cas, parce qu'en fait ils ne s'aiment pas eux-mêmes, quoi. Et c'est un récit assez cru, qui est explicite, avec des dessins très explicites.
Tout aussi explicite.
Ouais. Mais plus que dans Errance, vraiment. Mais c'est jamais pornographique, c'est jamais malaisant. C'est pas à mettre entre toutes les mains, il faut au moins avoir 16 ans et plus. Et là, c'est pas Kana qui édite, c'est IMHO.
Ok, donc Asano, c'est pas quelqu'un qui dissimule, hein, vous l'aurez compris. Il est souvent très frontal dans ses descriptions, mais avec des récits toujours très complexes, très riches. Et il ne cache pas son visage comme certains mangaka. Il s'expose, il s'exprime dans les médias, quitte à être critiqué pour ses prises de position, surtout quand celles-ci concernent son milieu, donc le milieu du manga, en fait. Et c'est assez remarquable, hein, pour qu'on vous le signale. Et on s'est dit avec Jenny qu'Errance faisait un parti de ces récits un peu cathartiques pour lui. Il y a beaucoup, beaucoup de son expérience personnelle.
Ouais.
Hein, on vous conseille vivement de découvrir cet auteur. Et qu'est-ce que tu nous as trouvé, Jenny, pour accompagner cet épisode dédié aux autobiographies de manga?
Alors oui, pour illustrer notre chronique d'Errance, j'ai sélectionné un morceau de 2023. C'est un binôme tokyoïde qui s'appelle Oral Vampire. Alors oral dans le sens auriculaire, en rapport avec Louis. J'ai essayé de me figurer un vampire auriculaire, mais mon cerveau bug à chaque fois. Dites-moi si ça vous fait pareil. Bon, sinon, c'est de la cold wave kawaii, dirons-nous. Un sang froid que je trouve va très très bien avec ce récit urbain et désœuvré d'Asano. Ce morceau s'intitule Cardigan Angel et c'est une autre énigme.
Et voilà les amis, c'est fini, retour en studio. Pour le deuxième manga de cette émission, on change complètement de style. On vous propose de terminer cette émission avec la série Trait pour trait, Dessine et tais-toi. D'Higashimura Akiko ou d'Akiko Higashimura ?
Higashimura Akiko.
Higashimura Akiko. Publié chez Akata en 5 volumes terminés.
Terminé, hein, fini, la série est finie. Mmh. Oui, alors c'est un portrait comme celui d'Asano, sans concession. La mangaka s'y dessine lycéenne et désinvolte et pas mal fainéante, mais elle est bien décidée à devenir mangaka quoi qu'il en coûte. Enfin, quoi qu'il en coûte à ses parents, surtout parce que les études d'art sont particulièrement chères au Japon. Elles sont aussi extrêmement difficiles d'accès avec un système de concours très sélectif dans le privé comme dans le public.
Oui, ce manga donne vraiment un bon aperçu du système des études, particulièrement des études supérieures, du troisième cycle au Japon. Il faut être bien accroché pour pouvoir faire ce que l'on a envie de faire.
Mmh. Et c'est pour cela que Ayashi, c'est son vrai nom, et c'est celle qu'elle reprend dans la série, dissimule à tout le monde son but ultime. Elle veut devenir dessinatrice de manga shoujo, donc plutôt pour les filles, un petit peu de romance, disons. C'est ce qu'elle lit depuis toujours, fébrilement, avec adoration.
Alors attention quand on dit romance, hein. c'est pas mièvre le shoujo. Hein.
Non, d'accord, c'est pas mièvre, mais bon, ça en fait partie aussi.
Ça en fait partie. Mm. Malgré le fait qu'elle se présente comme une ado un peu cruche hein, dans son manga, un peu écervelée, elle montre une appétence, enfin plus que ça d'ailleurs, une passion pour le manga, passion qui la pousse à mentir parfois.
Oui, parce que comment demander à ses parents d'investir autant d'argent pour permettre à leur fille de faire du manga, donc elle va faire de la peinture à l'huile, hein. C'est la spécialisation la plus prestigieuse et surtout la plus dure. Elle va vraiment en baver et elle a bien conscience de ce qui va se passer pour une flemmarde comme elle. Ça sera dur, ça sera très dur, mais au point où elle en est, allons-y, semble-t-elle se dire, avec son caractère désinvolte.
Et c'est là qu'elle fait une rencontre absolument incroyable. Enfin, elle rencontre un professeur de dessin incroyable qui va la former, qui va l'accompagner pour passer les concours pendant un an. Un professeur absolument dingue, hors norme, horriblement sincère, sans filtre, complètement dédié à ses élèves. Cette honnêteté implacable... vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très surprenant. Cette honnêteté implacable rejoint celle de l'autrice.
Oui, ce qui marque le plus dans ce manga, c'est la grande honnêteté sans phare ni concession dont elle use pour revivre ses années de formation. Elle n'est pas du tout tendre envers elle-même. Elle déballe tout, ses fautes, ses travers, ses ratés. Elle y va à cache quoi.
Ouais, c'est très ambivalent. C'est à la fois très drôle, en apparence assez, comme souvent, quoi, apparence assez léger, mais c'est aussi très dur. Avec toujours cette élégance de présenter des situations, des interactions vraiment difficiles de manière faussement légère, comme une vision shoujo de la vie.
Oui, mais c'est avant tout, je trouve que c'est un récit très vivant, c'est très drôle, parce qu'elle est vraiment ceinture noire en autodérision et troisième dan en second degré, Higashimura. On se marre beaucoup, mais parfois on est très ému, au bord des larmes, vraiment.
Oui, puis elle a cette phrase qui pourrait résumer nos deux mangakas du jour, qui pourrait s'appliquer peut-être à chacun, chacune d'entre nous, en fait. Oui. Elle dit à un moment, on grandit en racontant des petits mensonges. Et tu me disais, Jenny, qu'il y a déjà quelques séries d'elle qui sont éditées en France, mais est-ce qu'il faut avoir lu d'autres mangas d'Higashimura pour apprécier la série dont on parle aujourd'hui ?
Non, pas vraiment. Ouais. Enfin, pour apprécier trait pour trait, c'est vraiment pas la peine. C'est une mangaka qui pratique déjà pas mal l'autodirection dans ses œuvres de fiction.
L'autobiographie aussi.
Ouais, oui, l'autobiographie. Qu'est-ce que j'ai dit ?
L'autodirection.
L'autodirection.
Mais elle est pleine d'autodirection, comme nous.
Exactement. Elle s'inspire de sa vie pour écrire le scénario déjà. Puis elle ajoute souvent des pages bonus à la fin des tomes où elle partage son quotidien avec les lecteurs et parfois même directement dans les mangas, elle intervient en train d'écrire. Elle a écrit un manga qui s'appelle Le Tigre des Neiges et au milieu, quand c'est trop barbant sur le point historique, elle fait une digression et elle raconte sa vie. Voilà.
Elle s'adresse directement à ses lecteurs et ses lectrices. Mmh, mmh. Est-ce que c'est une pratique courante des mangakas, ce procédé narratif ?
Ouais, il y a pas mal d'auteurs qui ont recours. Je vous avouerai que c'est quelque chose que j'aime énormément dans le manga, car on apprécie les œuvres en les lisant bien sûr, mais je trouve que d'aller creuser pour connaître un peu plus sur l'auteur, le contexte d'écriture, le sous-texte de l'œuvre, tout ça, c'est vraiment très important pour moi. Ouais.
Ouais, là, c'est directement l'autrice qui nous propose ça dans sa série. Quoi.
Ouais, exactement. Ouais, elle a un point sur son style graphique qui va bien avec ça. C'est que grâce à ses études de dessin, elle a un trait qui est très habile, qui est très mobile, qui est très vivant. Mais elle fait des découpages ultra carrés parce qu'elle a beaucoup de choses à dire et ça permet une lecture assez fluide des dialogues et c'est très vivant. Quoi.
On vous fait une bio rapide d'Higashimura. Elle est née au mi-temps, ouais, au milieu, à la moitié des années 70, dans le sud du Japon, à Miyazaki exactement. Et sans vous spoiler la série, sans tout vous dévoiler, elle va évidemment réussir ses études, mais de manière assez dingue. Et je trouve que sous des dehors faussement futiles, en fait, elle est extrêmement, extrêmement courageuse. Et par ailleurs, elle commence à éditer, à être publiée très, très jeune.
Oui, comme Asano, elle commence un petit peu après lui, mais elle commence assez jeune parce que son style plaît rapidement dans les magazines de prépublication shoujo. Comme Asano, mais c'est une autrice qui se montre beaucoup dans les médias. Elle donne des interviews, elle ouvre son atelier aux caméras. Je crois qu'elle fait même un podcast ou un truc sur YouTube. Hein, voilà.
Et oui, et quand on cherche son nom sur un nom sur internet, je vais pas vous donner de, je vais pas citer de moteur de recherche. Mais bon, quand on cherche, quand on tape son nom, en fait, on trouve énormément de photos d'elle et ça change des autrices sur lesquelles on a travaillé précédemment, qui avaient plutôt tendance à cacher leur visage, en fait, avec un dessin ou un masque.
Elle a carrément du style, Higashimura. Elle officie vraiment dans ce registre shoujo, avec des histoires vraiment qui riment avec émancipation, la quête de soi, mais aussi il y a beaucoup d'irrisions de second degré, comme on disait. À travers ses mangas, elle aborde des thématiques peu représentées, je trouvais un peu tabou dans la société japonaise. Ça n'est pas encore arrivé en traduction française, mais elle a parlé dans des mangas le fait qu'elle est mère célibataire, qu'elle a divorcé deux fois, qu'elle est à la tête d'une énorme équipe d'assistants et qu'ils peuvent rendre mais par mois des quantités énormes de pages. Et elle suivait jusqu'à 5 séries en même temps, dans le même laps de temps. Quoi.
Elle est dingue. Elle est absolument dingue. Enfin, c'est une vraie. Quand je dis dingue, c'est positif, hein, bien sûr. Elle a une énergie dingue. C'est une vraie femme forte qui met en avant le style shoujo, qui réussit très bien dans son domaine. Et oui, parce que en fait, on se disait aussi que le style shoujo est sous-représenté, en tout cas sous-estimé, par rapport au shonen, au Japon comme en France.
Oui, et je voulais dire aussi, le style de Higashimura, quand on dit shoujo, on pense toujours aux grands yeux, aux personnes éthérées, tout ça. Elle a pas un style elle a un style plus moderne, je trouve, ouais. Un peu plus ramassé, plus sympathique. Quoi. Et oui, sur les réseaux sociaux, les lecteurs, surtout les lectrices, ont mis en avant un hashtag libéré de shoujo parce qu'on trouve, et je pense que c'est vrai, il faut rendre ce genre plus visible. Higashimura, c'est vraiment une figure importante, nécessaire et vraiment réjouissante de ce milieu. Voilà.
Donc vous l'avez compris, hein, on est fan et on va clore cette émission pour vous retrouver dans un mois, le 19 mars, je crois. On conclut cet épisode avec le même groupe qui est à l'origine de notre super générique, le Fujin Club, c'est ça, Jenny? Ou comment dit-on en japonais?
Alors, on dit le Fujin Korabu.
Korabu, voilà. Ça veut dire club?
Ça veut dire club, ouais. C'est Korabu. C'est découpé en syllabaire.
Fujin Korabu.
Korabu. Donc, c'est 4 musiciennes et un producteur qui vivent simplement une existence de parents et de musiciens au foyer sur la tranquille île de Sado, dans la mer du Japon. Elles font une musique hybride entre de la pop japonaise et de la musique de chambre, comme elles disent. Allez regarder le clip, ces trentenaires s'égriment dans des costumes traditionnels de femmes au foyer lambda pour évoquer l'existence tranquille de la vie à la campagne. Les paroles évoquent un concept ô combien japonais, celui de la saisonnalité, mais ici couplé au plaisir du ventre et des délices que l'on peut déguster au fil des saisons sur leur belle île de Sado. À très bientôt.
Ça fait rêver. Salut, à bientôt.